parole du jour avec le Père Willem.
Jésus, révélateur de l'amour. Les auteurs du Nouveau Testament ne cessent d'insister sur l'amour et la charité. Saint Jean déclare qu'on n'a pas intégré le message du Christ s'il n'imprègne pas notre manière de vivre. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et l'apôtre Paul apporte une subtilité en disant qu'il aurait beau donner tous ses biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale retentissante. Il ne suffit donc pas d'être généreux, il y a une manière de donner qui s'appelle l'amour. Un débat fructueux, peut-être pas encore terminé, entre catholiques et protestants, a permis de mieux situer le rapport entre la foi et l'action charitable. La question de départ était : sommes-nous sauvés par la foi ou par nos actes, que le Nouveau Testament appelle les œuvres ? Les protestants se réfèrent à l'apôtre Paul qui prône la foi conçue comme la relation à la personne du Christ et il se méfie des œuvres qui s'apparentent trop au sacrifice des religions primitives qui tentent de faire fléchir Dieu. Les catholiques, eux, citent la lettre de l'apôtre Jacques, si elle n'a pas les œuvres, la foi est morte. Montre donc ta foi en pratiquant les œuvres, dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Jacques ironise envers ceux qui veulent se faire bien voir des riches au lieu de s'activer envers les pauvres. N'avez-vous pas conscience que ce sont les riches qui vous opprimnent, dit-il. Le débat a abouti à la problématique suivante. J'agis non pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Le salut n'est pas un calcul. Nul ne peut mériter la vie éternelle comme un dû, grâce à quelques performances. Mais alors, pourquoi se fatiguer si le salut est offert à celui qui croit ? Certes, il l'est, mais que serait cette foi si elle n'était pas active ? Même lorsque la foi s'estompe, l'amour du prochain nous garde reliés au Christ. Rappelez-vous ceci, 2 ans avant sa mort, Thérèse de Lisieux n'a plus ressenti l'évidence de la présence de Dieu dans sa vie. Pourtant, au cœur de l'Église, elle a voulu être l'amour. De même, Mère Teresa de Calcutta, a-t-on appris après sa mort, cette femme a douté durant 30 années, et cela ne l'a pas empêchée de continuer son action auprès des mourants. Toutes deux, Thérèse et Teresa, savaient que Dieu les aimait et ont aimé. Même lorsque leur bien, c'est essentiellement d'être relié à la source d'amour, et même si cette source s'est vidée apparemment. C'était plus une foi primaire, mais une foi basée sur le ressenti qui les animait, mais c'était le pur acte d'adhésion. Pur acte d'adhésion à la parole qui nous est donnée. Peut-on appeler ce passage dans le doute l'inversion dans la foi ? Il s'agit alors d'aimer sans se sentir aimé. C'est l'amour totalement désintéressé, décentré de soi. Cet amour que François d'Assise a exprimé d'une manière simple dans sa prière, « Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. » Le plus grand acte de charité serait donc de faire connaître l'amour gratuit de Dieu et de brancher notre prochain sur la source du Dieu amour. En révélant cette source, on se met à égalité devant Dieu, ce qui entraîne plus loin que de faire du bien à plus pauvre que soi. L'évangélisation opère un transfert de technologie. C'est bien d'aider, mais cela peut maintenir l'autre dans la dépendance. Quand le pape François demande que l'Église se distingue d'une ONG, il ne demande pas seulement qu'on cite Dieu, mais il vise des réformes en profondeur. L'Église a regroupé dans la doctrine sociale un ensemble d'analyses pour attirer l'attention sur la nécessité de changer les structures afin que la charité ne soit pas seulement un acte de solidarité individuelle, mais que les causes de la pauvreté soient atténuées. Y a-t-il une parole plus révolutionnaire que celle de Thomas d'Aquin au XIIe siècle? Ton surplus, c'est la propriété des pauvres. Oui, malgré les efforts de Jésus pour leur apprendre à vivre comme lui, au service du royaume de Dieu, en rendant la vie des personnes plus humaine, plus digne et plus heureuse, les disciples n'ont pas encore compris, nous le rappelle l'évangile de Marc, par exemple, chapitre 9, l'esprit qui l'anime, son grand amour pour les plus démunis et l'orientation profonde de sa vie. Le récit de Marc est très éclairant à cet égard. Les disciples informent Jésus d'un fait qui les a beaucoup contrariés. Ils ont vu un inconnu chasser les démons. Et ce dernier agit au nom de Jésus et dans la même ligne. Il se consacre à libérer les gens du mal qui les empêche de vivre humainement et en paix. Mais ce travail de libération ne plaît pas aux disciples. Ils ne pensent pas à la joie de ceux qui sont guéris par cet homme. Cette façon d'agir leur semble une intrusion qu'il faut faire cesser. Ils font part à Jésus de leur réaction. Ils ont voulu le lui interdire car il n'est pas des nôtres. Cet étranger ne doit pas continuer à guérir car il ne fait pas partie du groupe. Ils prétendent monopoliser l'action salvatrice de Jésus. Personne ne doit guérir en son nom qu'il n'adhère pas au groupe. S'il n'adhère pas à ce groupe, dort. Alors Jésus reproche aux disciples leur attitude et se situe dans une logique radicalement différente. Il voit les choses autrement. Le plus urgent, le plus important, n'est pas la croissance de ce petit groupe de disciples, mais c'est que le salut de Dieu parvienne à tout être humain, même grâce à des personnes qui ne font pas partie du groupe. Celui qui n'est pas contre nous est de notre côté. Celui qui rend présent dans le monde à force de guérison et de libération de Jésus est du côté de son groupe. Jésus rejette la position sectaire de ses disciples qui ne pensent qu'à leur prestige et la croissance de leur communauté. Il adopte une attitude ouverte selon laquelle la première des choses est de libérer l'être humain de ce qui le détruit et le rend malheureux. Tel est l'esprit qui doit toujours animer ses véritables adeptes. Hors de l'Église catholique, il existe de par le monde un très grand nombre d'hommes et de femmes qui font le bien et vivent en travaillant au service d'une humanité plus juste et plus libre. Entre ces derniers, l'Esprit de Jésus est vivant. Il nous faut les regarder comme des amis et des alliés, jamais comme des adversaires. Ils ne sont pas contre nous, car ils sont du côté de l'être humain, comme l'était tout simplement Jésus de Nazareth.